on parle d'inculturation, mais c'est quand même un mot trop récent pour vouloir l'appliquer à cette époque-là. Il faut peut-être mieux parler simplement d'accommodation culturelle. Cette idée vient en fait de François Xavier et ensuite du père Alessandro Valignano, qui était un peu le supérieur pour toutes ces régions, qui se sont rendus compte qu'avec des Japonais et aussi les quelques Chinois qu'ils ont rencontrés, il fallait trouver une autre méthode d'évangélisation. Il ne suffisait pas simplement de proclamer « convertissez-vous, sinon vous allez aller en enfer », etc. Qu'on avait affaire là à des gens cultivés, très rationnels, avec qui on pouvait parler, à condition de ne pas avoir un sentiment de supériorité culturelle. Et donc que les missionnaires pour la Chine, comme pour le Japon, devraient d'abord passer le temps qu'il fallait pour apprendre la langue, pour apprendre à lire, à écrire, se mettre au courant de la littérature, des grands écrits de ces gens-là, et aussi bien vivre comme vivent ces gens-là, manger comme les Chinois mangent. Et c'est ce qu'a fait Ricci, c'était en somme le premier à mettre en œuvre cette idée d'une nouvelle méthode. Effectivement, rien qu'en faisant cela, Ricci a été reconnu par des Chinois qu'il a rencontrés, qui l'ont invité à venir vivre en Chine. Et alors le deuxième pas, c'est dans sa maison en Chine, il avait affiché une map monde qui a beaucoup intéressé ses visiteurs. Donc à partir de là, commençait aussi tout un dialogue avec des lettrés sur leur conception de l'univers, de l'existence humaine, avec la conception qu'apportait Ricci.
Justement, est-ce que cette diffusion du savoir occidental auprès des lettrés chinois a été décisive dans sa mission d'évangélisation ?
En faisant cela, le but de Ricci n'était pas tellement de convertir tous ses lettrés. Il se rendait très bien compte qu'il n'allait pas convertir tous ses lettrés. En fait, il n'en a converti qu'une dizaine de grands lettrés pendant toute sa vie. Son idée, c'était que peu à peu, ces gens auraient de l'estime pour la religion chrétienne et finalement, cette religion chrétienne pourrait être autorisée dans l'Empire. Alors en fait, ça n'est jamais arrivé, sauf pendant 4 ou 5 ans après la mort de Ricci. Les conversions se sont faites en partie par Ricci, mais aussi par la dizaine d'autres missionnaires qui étaient en Chine et qui ont été aidés dans différentes régions par des lettrés, effectivement, qui avaient été convertis par Ricci. Donc ce n'est pas avec des mathématiques ou de l'astronomie que Ricci entendait convertir les gens, mais simplement créer cette estime mutuelle qui allait faire que les gens pouvaient dire « bah oui, le christianisme c'est une conception du monde et de l'existence, quelque chose de très sérieux, ce n'est pas une religion pernicieuse qu'il faut interdire ». Parmi les cadeaux qu'il a apportés à l'empereur, notamment, il y avait des horloges qui sonnaient toutes seules. Et ça a beaucoup intéressé l'empereur. Et c'était du reste l'occasion pour Ricci d'entrer dans le palais impérial pour mettre au point ces horloges ou les réparer. Mais il n'a jamais rencontré l'empereur face à face pour tout cela. Alors, d'une façon plus général, en astronomie, en mathématiques, en cartographie, Ricci n'a rien révolutionné. Ce n'est pas lui qui a introduit la Chine dans l'ère moderne, etc. Mais il a apporté d'autres connaissances. Il a enrichi, si on veut, le langage scientifique chinois. Et comme en plus, il est arrivé un moment en Chine où, effectivement, les sciences n'étaient pas tout à fait à leur plus haut niveau, il a suscité parmi un certain nombre de ses intellectuels un intérêt renouvelé pour les recherches scientifiques. Et alors donc, dans ce sens-là, Ricci fait encore maintenant un peu figure, symbole, si on veut, de la modernisation à venir. Mais en fait, ce n'est pas vraiment lui qui a introduit la Chine dans la modernisation. Du reste, lui-même savait qu'il n'était pas un spécialiste de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il demande sans arrêt qu'on envoie un véritable astronome, un véritable mathématicien. Par exemple, quand Ricci traduit avec un ou deux lettrés des éléments d'Euclide, ça fascine un certain nombre de ces lettrés. Pour d'autres lettrés, bon, oui, c'est intéressant, mais ces lettrés vont reprendre Euclide, vont le démonter en quelque sorte, vont le reformuler à leur manière. Et donc, même Euclide ne révolutionne pas les mathématiques chinoises.
Et aujourd'hui, pour revenir là, cette fois à la religion, que reste-t-il de ces efforts de christianisation en Chine ?
Eh bien, Matteo Ricci est tenu, considéré comme le fondateur de l'Église en Chine. Matteo Ricci lui-même est parmi les lettrés chinois, c'est-à-dire donc son nom apparaît dans l'histoire officielle de la dynastie des Ming. Ses ouvrages sont cités dans la grande bibliothèque impériale. Et donc, même si l'Église catholique n'est pas très haut, situé sur le paysage culturel chinois, par Matteo Ricci, par cet étranger qui est reconnu comme un lettré chinois de l'Église catholique, a sa place dans l'histoire de la culture chinoise. Et ça, c'est quand même très important pour les catholiques en Chine. Dans ce monument du millénium qui a été construit pour le passage à l'an 2000 à Pékin, il y a deux étrangers dans une espèce de grande fresque d'histoire chinoise. Alors, le premier étranger, c'est Marco Polo, et le deuxième, c'est Matteo Ricci, avec sa lunette d'astronomie. Alors, en fait, il n'avait pas de lunette d'astronomie, parce que à cette époque-là, les lunettes n'étaient pas encore inventées. Mais il est là, justement, une espèce de symbole d'une modernisation à venir. Par ailleurs, en dehors des communautés chrétiennes, il y a quand même, depuis 1980, bon nombre d'intellectuels dans les universités qui s'intéressent à la fois au christianisme, à la culture chrétienne, et notamment à Ricci et à tous ces missionnaires qui ont traduit des textes occidentaux en chinois et dans le sens inverse. Et donc des gens qui sont prêts à dire que finalement le christianisme est beaucoup plus présent dans la société chinoise à travers la modernisation qu'on ne pourrait en avoir l'impression.